Le futur dépend-il de nos actions et de nos choix? Quel sera notre héritage? Quel impact avons-nous sur ce qui nous reste à vivre? Comment souhaitons-nous construire un environnement sain pour s'inscrire dans un bien ensemble? Bienvenue dans Aujourd'hui Demain, une invitation à la réflexion à travers les histoires de ceux qui nous entourent. Le Red Bulletin. Dans ce sixième épisode, nous partons à la rencontre d'Ouriel Zeboulon, un jeune tatoueur installé à Paris qui passe une grande partie de son temps à voyager pour s'enrichir individuellement et développer ses compétences au contact des autres. Après quelques années d'expérience, il s'interroge sur la manière d'exercer son art de la manière la plus saine possible.
Je m'appelle Ouriel Zeboulon, j'ai 25 ans, je suis tatoueur, illustrateur et je fais plein d'autres trucs à côté. Et je tatoue à Chill Hard Eye Studio depuis 3 ans et ça fait 5 ans que je tatoue. J'ai découvert le tatou quand j'avais 15-16 ans, à travers la musique que j'écoutais, les gens avec qui je traînais et tout. Et j'ai trouvé ça assez incroyable, le fait de pouvoir s'exprimer artistiquement, rencontrer des gens, gagner de l'argent grâce à ça aussi. Donc directement quand j'étais au lycée, c'est devenu un truc un peu évident pour moi, quoi. Et du coup, j'ai eu mon bac et à partir de là, j'ai voulu me lancer un peu là-dedans. Je suis passé par 2-3 autres trucs avant et un an après le bac, je me suis lancé dedans. Donc j'ai fait... pas un apprentissage officiel, mais je suis resté dans un salon pendant quasi un an qui s'appelle le Sphinx, qui a fermé d'ailleurs depuis quelques mois, malheureusement. Et du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai pu faire mon premier tatou là-bas sur un de mes meilleurs amis. Et j'avais trouvé un petit atelier dans le Marais, à Saint-Paul, où j'ai pu tatouer pendant 2-3 ans, un truc comme ça. Et j'ai direct commencé à bouger grâce à Instagram et tout, et voyager, faire des guests, comme on appelle ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser au tatou, il n'y avait que du old school, enfin ce qu'on appelle tous les styles, hein, donc old school, japonais, néo-traditionnel, enfin tous les trucs comme ça. Quand j'avais 15-16 ans, je me rappelle que c'était un milieu genre très fermé et pour rentrer dedans, c'était difficile quoi, tu vois, c'était que des gens avec des grosses personnalités survénères, tu vois, fallait rentrer au marteau-piqueur pour... ou alors par la petite porte, mais il fallait vraiment genre trouver un moyen de rentrer dans ce milieu sans se faire têche ou insulter ou quoi, tu vois, donc c'était pas évident, en même temps c'est un milieu qui est underground de base, tu vois, donc c'est pas c'était assez compliqué. Maintenant je trouve que ça s'ouvre de plus en plus et les anciens entre guillemets sont de plus en plus cool, je pense, j'espère, je sais pas. En fait les gens que j'ai commencé à rencontrer dans le tatou, c'est les gens qui étaient pile entre les deux, dans le sens où c'était toute la vague des tatoueurs qui avaient genre qui ont commencé dans les fin des années 2000, début 2010 ou quoi, tu vois, c'était la grosse traîne du tatou à ce moment-là, quand ça a commencé à exploser un peu à Paris ou même en Europe ou quoi. Et c'est des gens qui sont entre l'ancienne génération et entre la nouvelle aussi. Et du coup, ils ont le côté un peu encore froid, un peu difficile d'accès et tout, mais en même temps, je pense qu'ils sont eux-mêmes plus ouverts sur d'autres trucs, quoi. Donc j'espère que les deux vont un peu coexister comme il faut, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien voir des trucs de... tu vois, t'as la grosse convention de tatou, là, le mondial du tatouage, mais t'as pas de grosse convention de tatou contemporain à Paris ou quoi. Ça serait trop intéressant de faire ça, tu vois, d'avoir justement des... Donc je lance une bouteille à la mer, si jamais il y a des tatoueurs, tatoueuses qui veulent organiser des trucs comme ça, ça serait cool, quoi. Même, c'est assez intéressant dans le sens où il y a de plus en plus... Il y avait tout ce truc-là aussi de balance ton tatoueur qui était sorti il n'y a pas longtemps, avec toute la notion de safe place, de ce que c'est de se faire tatouer, d'être dans un environnement confortable pour les tatoueurs et pour les clients surtout. C'est des sujets qui n'étaient pas abordés avant. Avant, c'était juste on fait comme on fait depuis des années et c'est comme ça, on ne se pose pas de questions, tu vois. Maintenant, c'est un peu plus... on est de plus en plus sensible à certains trucs, quoi. Donc c'est une bonne chose, c'est bon.
Lancé il y a presque un an sur Instagram, le compte Balance ton tatoueur dénonce les propos sexistes, racistes ou grossophobes. Pour eux, avoir confiance en son tatoueur, c'est primordial lorsqu'on décide de garder toute sa vie sa création sur la peau. Afin de les épauler dans cette démarche, ils font appel à des avocats ainsi qu'à certains journalistes. Ainsi, ils proposent aux victimes qui le souhaitent un accompagnement dans d'éventuelles démarches judiciaires. Le hashtag Balance ton tatoueur, à l'inverse, est utilisé pour lister les tatoueurs que les clients ont jugés respectueux.
Et vers, je sais pas, je devais avoir genre 19 ans, un truc comme ça, j'ai découvert Boaka Tattoo Flash, qui elle était une des premières artistes que j'ai rencontrées, qui était un peu contemporaine, avec des illustrations plus artistiques, on va dire. Je pense que le milieu a évolué dans le sens où il y a de plus en plus de gens comme ça. C'est de moins en moins un métier d'artisanat, mais de plus en plus un métier d'art, entre guillemets. Et le milieu a juste augmenté en termes de quantité, même de qualité aussi, de ce qu'on propose. C'est un métier assez libre, donc on a toujours pu faire un peu comme on voulait. Mais là, c'est vrai que depuis quelques années, t'as vraiment le spirit en mode genre, on peut voyager où on veut, avant le Covid du coup, tatouer un peu où on veut. J'ai un peu évolué et commencé à faire mes armes dans ce milieu-là avec plein d'autres tatoueurs, plus ou moins de mon âge. Et plus âgés surtout, qui voyageaient beaucoup. c'est agréable, ça permet de voir d'autres horizons, même en termes d'expérience personnelle. Si on part du principe que là, du coup, c'est une pratique qui est de plus en plus artistique et de moins en moins artisanale, même si elle forcément l'aspect technique aussi qui est important. Si c'est un truc artistique, il faut que l'artiste en lui-même puisse être capable de vivre des trucs. Donc le fait de voyager, c'est trop bien. Parce que du coup, tu bois de ouf tout ce qui est autour de toi, quoi. Donc ouais, moi j'ai pas mal voyagé grâce à ça et c'était trop bien, ça m'a ouvert l'esprit, quoi. Je pense, soit on parle en termes de forme ou de fond, mais genre en termes de forme, du coup c'est du fine line, comme on appelle ça, donc de la ligne fine et tout, pour l'instant, parce que je pense que je vais encore évoluer et je suis jamais en... Enfin, je suis en éternel... C'est remise en question tout le temps. Soit ça, soit le truc de fond, plutôt les thématiques, ça va être ouais, spirituel, romantique, un mélange entre les deux en fait. Un mélange entre bah, pile moi où j'en suis quoi, dans ma vie, entre genre des quêtes un peu spirituelles et en même temps un truc où tu sais, on est né à Paris et genre c'est hyper la ville de l'amour, je sais pas quoi, même si c'est pas forcément le cas, mais tu vois, on a grandi dans ce truc là très, très romancé ou quoi. Donc en gros, moi j'utilise une petite machine rotative, comme on appelle ça. C'est un truc super simple, en gros, c'est genre t'as un petit moteur, t'as une aiguille qui est attachée au truc, et c'est parti quoi. Donc c'est vraiment tout con, c'est pas comme les machines à bobines, c'est pas comme les pennes, comme on appelle ça aussi. Dans ce que je fais, de toute façon, je fais des trucs très sobres, le plus, pas minimaliste, mais le plus sobre possible. Et ce genre de machine, ça convient parfaitement à ma façon de faire aussi les choses. Moi je bosse beaucoup sur la ligne fine, très clean, très précise, parce que j'ai envie d'avoir un impact qui soit... comment dire, straight to the point, tu vois, genre droit au but. J'ai essayé de développer ça un max et à force de faire, en fait, bah, du coup, j'ai développé une sorte de dextérité. C'est marrant parce que ce matin, en me réveillant, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc de la Commission européenne qui va interdire des angles de couleur à partir de l'année prochaine.
À partir du 4 janvier 2022, plusieurs encres de couleur vont devenir interdites à l'utilisation en France. Ainsi en a décidé l'Union européenne, qui a abaissé drastiquement le seuil autorisé de centaines de substances contenues dans les encres. Le rouge, le orange, le jaune et plusieurs couleurs dérivées sont concernées. En 2023, certains pigments du bleu et du vert seront à leur tour interdits, ce qui représente environ 40% de la gamme de couleurs en moins pour les tatoueurs dès l'année prochaine.
J'aurais tendance à dire que, empiriquement, il y a eu genre... Il y a environ, je sais plus, je crois que dans les chiffres du truc, il y avait genre 15 millions de personnes tatouées en Europe seulement, et qu'il n'y a eu que 1000 cas d'allergie sur 15 millions de personnes. Donc c'est pas particulièrement nocif, il n'y a jamais eu de cas corrélés avec des cancers de la peau, des trucs comme ça. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur truc à faire. Si tu veux avoir une santé béton, bah fais rien en fait, genre en mode ne prends pas de trucs qui soient d'origine chimique ou quoi, ça c'est sûr. Après, les encres qu'on utilise nous maintenant, c'est des trucs qui ont été développés en accord avec la réglementation européenne. Donc c'est des trucs qui ont été étudiés, tu vois, un minimum. Et voilà, on n'a jamais entendu depuis... Enfin, ça fait des milliers d'années que les gens les tatouent, on n'a jamais entendu de trucs, à part, évidemment, ça, ça n'a rien à voir, mais les trucs d'hygiène de base, tu vois, à respecter. Mais l'encre en elle-même, non, j'ai jamais vu... Je connais des potes à moi qui sont supérieurs, qui ont des tatous faits à l'ancienne, ça n'a jamais bougé. Je pense pas que ça influe sur ta santé tant que ça, quoi. Je pense enfin, surtout... les gens fument des clopes toute la journée, on se tisse de ouf, enfin genre tu vois, c'est tellement... je pense qu'il y a des trucs qui sont pires, même ce qu'on fout dans la bouffe, les pesticides et tout, tu vois, donc... Après, si tu veux être sûr d'avoir une peau béton hyper bien et tout, vaut mieux pas se faire tatouer de base, ça, c'est sûr que c'est pas forcément très très... c'est pas le max de se faire des espèces de scarifications comme ça, quoi, mais... Le seul truc que je tiens à dire et qu'il faut faire savoir aux gens, c'est que les cas où il y a des allergies sur le tatou, en général, enfin, à l'angle de tatouage en tout cas, c'est souvent du rouge. Donc peut-être faire attention ou alors faire un test avant, tu vois, demander la composition du truc à l'avance, faire un point. En général, on est censé faire, tu vois, un petit point en cas de doute ou quoi, et tu reviens 2 semaines après voir si ça a bougé ou pas. On va direct parler d'un truc environnemental, à l'échelle environnementale en tout cas, c'est que le tatou, c'est de l'usage unique principalement, enfin en tout cas maintenant c'est principalement de l'usage unique, et ça implique beaucoup de plastique parce que c'est la seule chose qu'on nous donne en usage unique, quoi.
On notera que de plus en plus de salons tentent de réduire leur production de déchets, car tatouage et emballage plastique vont de pair. Entre les cartouches, les tubes, les aiguilles jetables, les rasoirs, les gants, les gobelets de rinçage, les capuchons d'encre, on ne compte plus. Conscient du problème, il se tourne vers des gammes en PLA, acide polylactique, un thermoplastique fabriqué à partir de ressources renouvelables telles que l'amidon de maïs, les racines de tapioca ou la canne à sucre.
Du coup, moi, ça va pas trop avec mes valeurs parce que j'essaye de faire hyper gaffe à ma façon de consommer en général, voire parfois un peu trop, tu vois. Et du coup, dans le tatou, je me suis dit, putain, en fait, ça fait chier de gâcher autant de plastique qui, en plus, c'est sûrement... je sais pas, cramé, je sais pas trop comment ça fonctionne les trucs de traitement des déchets à risque infectieux et tout, mais En gros, il y a eu un premier essai que j'avais fait qui s'appelait Iceberg Project. C'était en 2019. Je m'étais dit, ok, je vais faire des tattoos caritatives. J'avais fait une planche avec genre, t'sais, plein d'animaux un peu en voie de disparition et tout. Et je vais tatouer les petits pingouins, par exemple, qui vont être le logo de ce truc-là. Et en faisant ça, je reverse 50% à une asso qui s'appelle... C'était quoi à l'époque ? C'était The Ocean Cleanup. Et c'est un truc qu'un mec de 16 ans a inventé. Enfin, il a inventé un appareil pour... comment dire pour récupérer tous les plastiques que tu trouves dans l'océan, quoi, en gros. Et pour récupérer tous les déchets. Et c'est une sorte d'énorme bras, si tu veux, qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Et en fait, du coup, ça récupère tout ça. Et après, eux, ils traitent les déchets comme ça. Et du coup, ça nettoie les océans.
The Ocean Cleanup est une organisation à but non lucratif connue pour ses efforts visant à nettoyer les océans de nos déchets. Actuellement, elle s'attaque au vortex des déchets du Pacifique Nord, une énorme masse d'ordures située dans l'océan Pacifique entre Hawaï et la Californie.
Donc, je filais un peu d'argent à cet assaut-là. Et ensuite, il y a eu quelques trucs qui sont sortis dans le monde du tatou, parce qu'évidemment, il y a des gens, enfin, je suis pas le premier à me poser ce genre de questions, et il y a des gens plus haut placés que moi dans le milieu qui ont eu l'idée de créer des nouveaux matériaux. En partie avec des... genre, enfin, c'est principalement d'origine végétale, du coup. Et du coup, c'est des nouveaux matériaux. C'est une sorte de bioplastique vert, un peu comme ça. Et en gros, c'est une compagnie anglaise qui s'appelle Greenhouse Tattoo Supply. Et je sais que sur plusieurs sites maintenant de fournisseurs de tatou, tu trouves ça aussi. Donc voilà, maintenant, j'essaye d'utiliser que ça pour limiter ma quantité de plastique et ma quantité de déchets liés au tatou. Après, je pourrais aller plus loin encore. Il y a un truc américain que je kiffe, qui est une marque qui est trop bien, qui fait que des tubes et des aiguilles qui sont full biodégradables, tout en acier inoxydable et du liège et tout. Donc, c'est que des trucs que tu peux limite jeter dans la nature et ça craint rien, quoi. Après, non, on va clairement pas les jeter dans l'océan ou dehors, hein, mais on les traite toujours dans les déchets à risque infectieux. Mais en tout cas, ça crée moins, c'est sûrement moins polluant que le plastique qu'on utilise, quoi. Ça reste un milieu qui est assez mystérieux pour la plupart des gens, où les... Bon, ça commence à s'ouvrir un peu, mais c'est assez cryptique dans le sens où, genre, les gens savent pas trop ce qu'on utilise. Enfin, tu vois, par exemple, moi, le fait, j'avais bossé avec Buraka Tattoo Flash, du coup, Diana, qui a bossé avec moi pendant un an et demi ici. Et elle, par exemple, elle montrait tout le temps les aiguilles, les dates de péremption, des aiguilles, des tubes, de tout, de l'encre et tout, nanana. Et c'est un truc que, du coup, moi, comme je bossais avec elle dans la même pièce, je me suis retrouvé obligé de faire ça, parce que c'est bizarre de pas le faire alors qu'elle le fait avec ses clients. Et du coup, j'ai pris cette démarche-là, donc je monte tout le temps tout, encre, aiguille, tout ça. D'habitude, on est censé le faire, mais les trois quarts des tatoueurs ne le font pas, pour peut-être gagner du temps ou quoi. Et du coup, par contre, ouais, à chaque fois que je tatoue les gens, que je leur montre le truc, parfois c'est limite un peu rébarbatif de montrer tout, alors qu'en fait, ils sont pas forcément très... ils font beaucoup confiance, quoi. Si on peut avoir un tatou qui est fait, qui est bien fait, et en plus qui est, entre guillemets, un peu écolo, c'est sympa, quoi, tu vois. Surtout qu'on est à Paris, les gens commencent à être à peu près ouverts d'esprit là-dessus, quoi. Par contre, ouais, les photocopies, c'est un peu relou. Hein. Ouais. Mais bon, ça va, je dessine tout à la main. Et je compte, ouais, peut-être 5 feuilles de papier en tout par tatou entre le moment où je vais filmer. Un peu moins, c'est une grosse moyenne, voire 3-4, mais entre le moment où je dessine et le moment où on va voir le résultat final sur la peau, quoi. Du coup, on a quand même besoin de papier, ça, c'est sûr, quoi. C'est des métiers d'artisanat, donc on dessine. Peut-être que je devrais prendre du papier recyclé, j'y ai pas encore pensé. Et après, dans d'autres sphères, disons, je bosse de plus en plus sur des thématiques de plus en plus spirituelles et essayer d'ouvrir la conscience de tout un chacun, j'espère, à travers ce que je fais, quoi. J'aime pas dire artiste ou quoi, mais bon, en tant que créatif, en tout cas, forcément, tout ce que je vais créer, ça va être nourri parce que ce avec quoi je me nourris, moi, du coup, que ça soit physiquement ou mentalement. Et du coup, ouais, j'essaye d'avoir une ligne de direction entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle qui soit à peu près la même, qui soit assez unifiée entre les deux, quoi, tu vois. Je pratique la méditation depuis plusieurs années, le yoga aussi, et c'est des trucs qui m'ont grave ouvert la conscience et qui m'ont vraiment fait changer un peu de lifestyle, parce qu'avant, j'étais très... je suis toujours tout autant névrosé, je pense, mais je répondais à mes névroses de manière très violente ou hystérique ou quoi. Et j'ai réussi à calmer un petit peu ce truc-là, justement, à travers toutes ces pratiques-là. Et du coup, forcément, quand tu prends conscience de toi, tu prends conscience du reste. Si toi, tu te traites bien, tu peux pas traiter le reste, enfin, l'environnement et les autres d'une mauvaise manière non plus. Donc, c'est à la fois genre volontaire et involontaire, mais ça s'est fait comme ça. Là, j'ai sorti une collection de fringues upcyclées. Qui ont toutes été faites à partir de matériaux récupérés, qu'on a fait tout coudre et tout assembler et tout en France. Je suis dans la même démarche aussi pour et le tatou et les autres projets que je peux avoir à côté, d'essayer de faire des trucs qui soient full upcyclé si je peux pour les fringues et full écolo si je peux pour le tatou aussi, donc enfin éco-responsable en tout cas. Je sors une mini collab avec la marque Rombo aussi, qui est une marque de shoes, de sneakers très très cool, et tout est en cuir vegan et genre en mode éco-responsable aussi, donc voilà, on essaie d'être à fond dans le délire, tu vois, genre. Keep going, c'est le seul truc que genre je suis, le seul truc dont je suis sûr, et le seul truc qu'il me faut, c'est ça, c'est juste continuer à faire des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pas lâcher, pas m'apitoyer sur mon sort, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu fatigant d'être, tu vois, quand t'es à ton compte, quand t'es auto-entrepreneur et que même t'es dans un truc créatif et tout, surtout dans un milieu à Paris, je trouve que c'est pas le milieu le plus créatif du monde et c'est pas le milieu qui t'invite le plus à être, à sortir de la boîte. Je trouve qu'on est dans une ville qui subit un peu le poids de l'académie et des traditions et de l'institution et tout depuis, je sais pas, des centaines d'années ou quoi. Du coup, je me dis juste, ok, il y a des moments où tu sais, t'as des moments de doute et il faut continuer, continuer, continuer. Peut-être qu'un jour ça portera ses fruits et tu verras quoi. Continuer à parler de ce genre de sujet, c'est le plus important. Et après, bah, le reste vient à toi ou tu viens vers le reste.
Je suis Marie-Maxime Dricot. C'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté. Et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.